d'abord voici quelques annonces. Alors vous êtes bien nombreux ce matin et je suis très heureux et je m'aperçois aussi que je n'ai pas assez de scutum fidei de janvier à mars. Il en reste 4, donc prenez ce qu'il y a et je vous enverrai cette semaine le fichier PDF pour tous ceux qui ne l'auront pas. Donc, vous l'aurez tous. J'ai apporté aussi quelques livres nouveaux, surtout pour la jeunesse. Des livres du père Unerman, des très bons livres de Bureuil de Saint, très bien écrits. Donc, le père Unerman était un prêtre allemand, mais c'est écrit dans un très bon français pour les jeunes, donc de 7 à 77 ans. C'est comme pour Tata, c'est la tranche d'âge est la même. Et très instructif, très instructif. Et puis aussi, ce que vous ne trouverez pas dans les chapelles de la fatalité, certainement, des mementos de Mgr Williamson. J'étais à son enterrement il y a quelques semaines en Angleterre. Un très bel enterrement célébré par Mgr Morgan. Plusieurs évêques étaient là, plusieurs prêtres de différents pays et environ 200 fidèles. Donc à Canterbury, non pas la cathédrale, qui est anglicane évidemment, hélas, mais juste à côté, à 10 minutes, dans un grand hall qui était une cathédrale de fortune, à l'image du ministère qu'a fait Mgr Williamson ces dernières années, pour le combat pour la foi catholique. Monseigneur est enterré à quelques kilomètres de Canterbury, dans un endroit qui est encore discret, voire secret, pour éviter toute profanation. Et c'est un cimetière catholique. Mgr Williamson ne voulait pas être enterré avec ses parents, anglicans. Donc c'est un catholique qui est fermé la nuit. Donc c'est semi-public, ouvert le jour et fermé la nuit, clos de mur. Enfin, il n'y a pas de risque de profanation, ce qu'on pourrait craindre. La prochaine messe que je dirai dans la région sera le dimanche 25 mai, quelques jours avant l'ascension chez M. Alain Chéniaud. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes en plein carême, dans ce troisième dimanche de carême, et notre Seigneur Jésus-Christ parle du démon. Du démon qui est multiforme avec les sept vices capitaux. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile plusieurs choses, mais je voudrais m'arrêter sur ces vices capitaux. Il parle du démon d'impureté. Et nous verrons avec Saint Grégoire le Grand que l'impureté est la racine, enfin, c'est le condensé de tous les péchés d'impureté. Il n'y a pas que l'impureté qui concerne le sixième ou le neuvième commandement, mais c'est bien plus large que cela. Un démon impur, un démon qui infeste les âmes. Et notre Seigneur Jésus-Christ va guérir, se posséder du démon, vous savez, un démon impur, un démon qui a été muet également. Très souvent, pour les péchés que les hommes commettent, le démon ne veut pas que la personne qui sait le péché qu'il a fait, les péchés qu'il a fait, les dévoile au prêtre. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit c'est un démon muet. Attention au démon muet, faisons de bonnes confessions. Et ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ dit il a été délivré de cette impureté. Mais attention, si on n'est pas vigilant, cet esprit, plus méchant que le premier, vienne, assaille l'âme, l'investisse et la dévaste. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ dit, bien sûr, je veux délivrer les âmes de toute impureté, mais attention, soyons vigilants. Car si on n'est pas vigilant, on se dit, c'est bon, j'ai été guéri des péchés, et je m'installe dans un fauteuil, et je prends du bon temps, et je laisse les portes ouvertes, au lieu de veiller à ce que les portes soient fermées, les portes du mauvais esprit, du démon, des tentations. Alors, à ce moment-là, notre Seigneur dit, cet esprit plus méchant que le premier vienne et dévaste l'âme. Dévaste l'âme. Alors, je voudrais vous lire un très beau commentaire qui me semble pouvoir être... qui convienne à cette prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout un texte pas très long, mais il est important de le lire et de le bien comprendre, de Saint Grégoire le Grand, et grand pape au 5e siècle, que va citer dans ce petit livre du Père Emmanuel, le naturalisme. Un petit livre, mais très riche en doctrine. Il explique bien cette impureté. Je ne vous lis pas la conclusion, vous verrez que tout ce qu'il va dire et que ce que je vais lire aboutisse à l'impureté sous deux formes. Chacun, dit Saint Grégoire le Grand, chacun de ses vices sont la vaine-gloire, l'envie, la colère, la tristesse, l'avarice, la gourmandise, la luxure, les sept péchés capitaux. Chacun de ces vices a contre nous son armée. La vaine-gloire a à sa suite la désobéissance, la jactance, l'hypocrisie, les querelles, l'opiniâtreté, les discordes, la présomption des nouveautés. On dit bien Saint Paul, cette curiosité de tout ce qui est nouveau, cette démangeaison des choses nouvelles. Saint Grégoire le Grand ne parle pas d'Internet, mais c'est bien cela. On peut mettre l'Internet là-dedans, cette démangeaison des choses nouvelles. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Cet appétit qui n'est pas un appétit spirituel, mais quelqu'un de temps, à minima, et beaucoup de choses mauvaises par la suite. L'envie est suivie de la haine. Vous voyez, Cain par exemple. La médisance secrète, la détraction publique, la joie des maux du prochain, l'affliction de sa prospérité. L'envie amène à tout cela. La colère engendre les rixes, l'enflure de l'esprit, les injures, les clameurs, l'indignation, les blasphèmes. La tristesse, suivie de la malice, la rancune, de la timidité, du désespoir, de la tiédeur pour les commandements divins, on appelle l'ascédie, la paresse spirituelle, l'égarement de l'esprit vers les choses illicites. L'avarice engendre la trahison, la tromperie, la fausseté, le parjure, l'inquiétude, la violence, l'endurcissement du cœur contre la miséricorde. Au début du carême, et tout le long du carême, avec l'invitateur de matine, il est bien dit, c'est le psaume 94, « Puisque vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. » Le carême a pour but, mes bien chers frères, d'ouvrir nos cœurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cette avarice endurcit le cœur contre la miséricorde. La gourmandise est suivie des folles joies, des bouffonneries, de l'impudeur, du bavardage, de l'évêtement intellectuel, la sottise. La luxure engendre l'aveuglement de l'âme, l'étourderie, l'inconstance, la précipitation, l'amour de soi-même, la haine de Dieu, l'affection pour le monde présent, l'aversion ou le désespoir pour le monde à venir. Et ces sept vices capitaux, dit Saint Grégoire le Grand, sont liés entre eux par une si grande affinité qu'ils s'engendrent les uns les autres. Ainsi, la première production de l'orgueil, qui est la vaine gloire, n'a pas plutôt communiqué sa corruption à l'âme qu'elle possède, qu'elle engendre aussi d'eux l'envie. Parce que celui qui aspire à la puissance ou à la dignité est tourmenté par la crainte qu'un autre ne l'obtienne avant lui. On voit dans ce monde plein des vices, la recherche du pouvoir, plus de pouvoir, plus de capacité, et on écrase le prochain qui voudrait briguer tel poste. C'est très actuel. Depuis le péché originel, toujours la même chose. Et moins notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la société, plus les vices augmentent. De son côté, l'envie engendre la colère. D'autant que, plus l'âme est intérieurement rongée par l'envie, plus elle perd sa douceur et sa tranquillité. La colère engendre la tristesse, parce que l'âme se jetant elle-même dans un trouble déréglé, et approuvant ce trouble, tombe dans la confusion. Et après avoir perdu une fois la douceur et la tranquillité, elle ne se repaît plus du chagrin et de sa perturbation. La tristesse dégénère en avarice, parce que le cœur tombé dans la confusion et ayant perdu le bien de la joie intérieure, va chercher au dehors de quoi se consoler et se porte à la recherche des biens extérieurs.
d'autant plus d'ardeur, il n'a plus en lui-même aucun sujet de joie auquel il puisse avoir recours. Plus l'âme, plus le corps est rivé et lié dans les plaisirs sensibles, plus il en cherche et plus il a du dégoût pour les choses spirituelles. C'est toute l'expérience de l'humanité, et hélas aussi notre expérience. Notre expérience. Faisons un examen de conscience à la lecture ou l'audition de ces mots. Après cela, restent les deux vices de la chair, savoir la gourmandise et la luxure, et personne ne peut ignorer que la gourmandise engendre la luxure. Le Père Emmanuel va conclure. Écoutez bien, c'est remarquable. Remarquable. Saint Grégoire remarque que de ces sept péchés capitaux, il y en a cinq qui sont vices de l'esprit et deux de la chair. D'après lui, on peut les réduire à deux principaux, l'orgueil et l'impureté. Qu'est-ce que l'orgueil, sinon l'impureté de l'esprit? Qu'est-ce que l'impureté, sinon l'orgueil de la chair? Les deux impuretés. Une impureté de l'esprit, l'orgueil, une impureté de la chair, l'impureté, au sens qu'on connaît. Vous voyez, cet évangile, en Saint-Luc, il chasse un démon impur. Deux impuretés, l'esprit ou le corps. Comment résoudre, comment répondre à ces deux impuretés? Par la pureté, par l'inverse, et par l'humilité, et par l'humilité. L'orgueil de l'esprit, l'humilité. L'impureté de la chair, par l'humilité de la chair, la mortification. Comme c'est admirable. J'invente rien. Je n'aurais pas été capable d'avancer ça. C'est notre Seigneur Jésus-Christ expliqué par un père de l'Église, Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Magnifique. Et donné à notre portée par le Père Emmanuel. Ces deux vices, dit encore Saint Grégoire, exercent une dure domination sur tous les hommes. L'orgueil élève l'esprit. La luxure corrompt la chair. L'ancien ennemi opprime la nature humaine ou par l'orgueil ou par l'impureté. Il tient assujetti l'homme condamné sous le joug de sa tyrannie ou par la vaine élévation de l'esprit ou par la corruption de la chair. Il y en a même quelques-uns qu'il possède par ces deux vices à la fois. L'orgueil de l'esprit, l'impureté, et l'impureté, comme nous la connaissons, dénoncée et protégée aussi par ce sixième et ce neuvième commandement de Dieu. À la fin de l'évangile, vous avez noté, c'est une femme du peuple qui, devant la beauté de ce que Jésus-Christ a fait, il a guéri un possédé de l'impureté et donné une grande leçon sur la façon dont il faut réagir et se protéger de toute impureté, décrite par Saint Grégoire le Grand. Une femme du peuple dit « Oh, comme est heureuse votre mère !» qui vous a porté et qui vous a allaité. La simplicité, la candeur, l'honnêteté, la vérité. Si cet homme parle si bien, quelle est sa mère? Cet homme est Dieu. Et elle louange, elle donne une grande louange à la Vierge Marie, à l'Immaculée. Si cet homme parle si bien, sa mère, que doit-elle être? Et Jésus répond, de façon un petit peu étonnante. Bienheureux plutôt, ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Est-ce que c'est pour mépriser sa mère qu'il répond ainsi à cette dame? Pas du tout. Parce que notre dame a bien fait cela. Elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a gardée, c'est-à-dire mise en pratique. Elle est l'Immaculée. Dans son esprit, elle est toute pure. Notre dame n'est pas orgueilleuse. Elle l'a déclaré au jour de l'Annonciation. Le fait-on après-demain d'ailleurs. C'est la servante du Seigneur. L'ange lui dit, vous allez devenir la mère de Dieu. Elle ne s'est pas glorifiée de cela. Au contraire, elle a dit, je suis la servante. Je viens pour servir, pour obéir au service du bon Dieu. Alors qu'elle est la reine de Dieu, la reine du ciel, la mère de Dieu, l'Immaculée. Elle a conçu le Saint-Esprit au moment où elle dit « Fiat ». et elle dit, chez Sainte Élisabeth, le Magnificat, je suis la servante du Seigneur. Dans cette annonciation qu'elle dit, je suis la servante du Seigneur. Mais plus tard, chez Élisabeth, dans la visitation, dans le Magnificat, elle dit ceci, et ce qui est très vrai aussi, toutes les générations le proclamons bienheureuse. Toutes les générations, c'est nous ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est immaculée, elle vient servir notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les âmes par conséquent, les enfants de Dieu, nous sommes à la et puis sa pureté de cœur, de corps, pureté complète. Notre-Dame, c'est l'immaculée, Notre-Dame, c'est la pureté parfaite. En elle, il n'y a aucune impureté, ni de l'esprit, ni du corps. Glorifions Notre-Dame, c'est absolument nécessaire, et demandons-lui de participer au mieux que nous pouvons de ces deux puretés, du cœur, de l'esprit, dans la vérité, dans l'humilité, et la pureté dans notre corps, afin que Dieu soit servi de façon admirable dans notre vie chrétienne, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.